France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Les anchois, ben là, si on n'aime pas les anchois, on n'en met pas, mais idéalement, on en met quand même. Hop là.
Allez, celui-ci, avec une bonne petite persillade.
L'anchois de Collioure, c'est le symbole de ce village catalan. Il émoustille toujours autant les papilles, même si l'anchois se fait un peu plus rare.
Les anchois, j'adore ça.
Pays salade, poisson salé. C'est de la crème d'anchois pour faire la pisse saladière, mettre dans la salade niçoise, la bagnac caude. Il y en a même qui le mettent sur la viande.
Moitié 4, ça me fait 2.
La meilleure pizza du monde, elle est là. Moitié-moitié, anchois fromage.
C'est dégueulasse, les anchois, n'en prenez jamais sur une pizza.
On a encore des sandwichs à la purée d'anchois, ils partent bien ceux-là.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Bien sûr, il y a l'anchois qui garnit les pizzas, l'anchois dans la sauce de la salade César, l'anchois dont on fait l'anchoyade, l'anchois que beaucoup détestent aussi. C'est vrai que c'est un aliment très clivant, mais bien au-delà de ça, l'anchois est un poisson de choix. Et je ne lance pas ce slogan pour le plaisir de la rime. Frais, en conserve, en pâte, en sauce fermentée, l'anchois est omniprésent dans de nombreuses cuisines du monde. On vous raconte le grand destin de ce petit poisson avec nos deux invités du jour. Tout d'abord, évidemment, notre spécialiste du poisson et de la pêche, Charles Guériec, bonjour.
Très heureux d'échouer avec mes anchois.
Pas mal. Vous avez fondé Poiscaille, le circuit court de la mer. On navigue un peu en eau trouble hein, sur l'anchois, avec des infos d'ailleurs assez contradictoires sur ses stocks. Biologie, écologie, pêche, cuisine aussi, puisque vous nous préparez de beaux anchois frais que vous avez trouvés au marché ce matin. Vous allez nous raconter ça. Vous allez tout nous dire sur ce petit poisson magique. Également avec nous, Alessandra Pierini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Alors on va parler, chère Alessandra, évidemment du statut privilégié de l'anchois dans la cucina italiana, mais on va aussi évoquer l'univers passionnant de l'anchois fermenté, du garum de l'antiquité romaine au nyokmam vietnamien. C'est d'ailleurs le thème d'un livre auquel vous avez participé. Hein. Vous pouvez nous en citer le titre?
Absolument, c'est Garum, aux éditions de l'Épure, qui vient juste de sortir.
De Patrick Cadour, avec pas moins de 7 contributrices, dont vous d'ailleurs, qui vous êtes occupé de la culture de l'anchois fermenté en Italie. C'est un livre tout à fait passionnant. Ils sont à bord de notre émission. Elvira Masson et Dominique Hutin, bonjour à tous les deux.
Bonjour à toutes et tous.
Chère Elvira.
Je vous ai bricolé une sauce magique dont j'ai chipé la recette à Ottolenghi.
Et je peux vraiment, sans faire trop de teasing, qu'elle est absolument magique, cette sauce, voire même addictive,
on peut dire ça. Ouais. Elle vient de son tout nouveau livre,
l'anchois,
qui est épatant.
Il tient évidemment une place de choix. Hein. Dominique.
Mais moi, je suis parti à la rencontre d'une rareté, plutôt. C'est un vin dont le souvenir était un peu enfoui dans les caves autour de Collioure. Et j'en reviens avec des vins de sensations fortes, c'est le Rancio sec.
Et le choix de Collioure n'est pas totalement un hasard, je pense.
Pas vraiment.
Abonnez-vous au podcast dont on va déguster en un clic sur la nouvelle appli de Radio France. Réagissez dans notre émission en direct avec vos questions, vos remarques sur franceinter.fr ou sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com et retrouvez toutes nos infos, nos recettes, nos bons plans sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Charles Guériec, vous êtes depuis 10 ans à la tête de Poiscaille, qu'on peut considérer comme la poissonnerie la plus engagée de France. Vous proposez aux particuliers des casiers de la mer au juste prix avec du poisson sauvage et français. Un peu l'équivalent marin finalement des paniers de légumes. Hein.
Exactement, tout à fait.
Et nous avons appris il y a quelques semaines que Poiscaille vivait des difficultés importantes en ce moment qui menacent même à terme votre activité. En quelques mots, que se passe-t-il, Charles?
Bah, comme beaucoup de commerces vertueux dans l'alimentaire, l'inflation est passée par là, l'augmentation des coûts de production, notamment de l'énergie, parce qu'il y a pas mal de transport pour le poisson, il faut que ça aille vite pour le garder bien frais. Mm-hmm. Bah, ils ont impacté, ils mettent en danger aujourd'hui la pérennité de Poiscaille, alors qu'on a des témoignages de pêcheurs qui nous disent grâce à vous, je vis mieux, je peux même me permettre de pêcher moins, j'ai retrouvé une qualité de vie que j'avais perdue. Et donc, on lutte encore, on est encore là, on est encore vivant. Il y a une très très belle mobilisation qui s'est organisée, avec des témoignages extrêmement touchants à la fois des abonnés qui nous disent « sans vous, j'arrêterai de manger du poisson » ou « vous m'avez fait découvrir des goûts que j'avais perdus, comme l'aile de raie de la cantine, j'étais traumatisé, j'ai redécouvert l'aile de raie fraîche, mes enfants s'y mettent maintenant, on est obligé de prendre 2 paniers pour partager parce que sinon c'est la guerre à la maison » et à la fois des témoignages des pêcheurs qui disent « mais ce projet est trop beau et il y a un engagement trop fort, donc une énergie pour continuer et tenir sur le long terme.
La météo catastrophique de ces derniers mois ne vous a pas aidé ?
Elle nous a pas aidé. On parle de la pluie pour les agriculteurs ou les vignerons. C'est la tempête au bord de la mer pour les petits pêcheurs qui, ceux avec lesquels on travaille, ne peuvent pas sortir autant qu'ils voudraient. On a vraiment eu des messages de pêcheurs prêts à jeter l'éponge au mois de juin en disant « mais ça revient pas, il fait pas beau ». L'été a été à peu près bien, mais là on retombe déjà encore dans le mauvais temps. Et on est bien content, nous, d'être là, de leur garantir des bons prix sur les rares pêches qu'ils arrivent à faire pour assurer leur pérennité, parce qu'il y a une vraie menace... On croise les doigts pour que ça aille mieux. El Niño est terminé, donc normalement ça devrait aller mieux.
El Niño.
El Niño, c'est ce phénomène qui dans le Pacifique a un impact très fort sur la météo. Soi-disant, il n'a pas d'impact sur l'Atlantique. Mais c'est bizarre, il y a 10 ans quand on a démarré Poiscaille, ça avait été un hiver catastrophique. Et là, on connaît le même, et à chaque fois, il y avait El Niño. Donc moi, je suis assez convaincu qu'il y a un effet.
Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter ?
Des nouveaux abonnés. À 25 000 abonnés, Poiscaille est pérenne. On vient de passer la barre des 23 000, donc il nous manque que 2 000 abonnés. Donc il suffit de s'inscrire et là on soutiendra à la fois les pêcheurs vertueux, on se régalera avec du bon poisson et on pérennisera un projet qui est beau, je crois, en tout cas.
Parce que pour les auditeurs et les auditrices qui penseraient qu'on vous fait de la pub gratuite, alors c'est vrai que c'est un peu une promo, mais il s'agit quand même d'apporter un coup de pouce à une petite entreprise que vous avez fondée et qui encourage la petite pêche côtière et durable, qui paye les pêcheurs français au juste prix, qui nous apprend aussi à manger autre chose que du saumon de Norvège ou de la dorade d'élevage.
Et de saison aussi.
Rappelons que vous êtes sur une petite pêche strictement durable.
Ah oui, avec des critères très précis, et donc qui fait que ces bateaux-là, qui font moins de 12 mètres, qui utilisent pas de chalut, pas de drague, que des engins et des techniques douces, ils sont très dépendants de la météo. Donc les paniers peuvent varier fortement. Ça peut faire... On va pas retrouver de saumon, on va pas retrouver de langoustine parce que c'est pêché au chalut, on va pas retrouver de cabillaud norvégien. Et le combat, il est vraiment là. Il est sur, arrêtons d'importer autant 70% de ce qu'on mange aujourd'hui importé. Et le poisson français est pas très présent sur les étals. Chez Poiscaille, il est 100% français. Et en fait, c'est un engagement qui est assez dur à tenir.
Eh bien, écoutez, le message est clairement passé. Toutes les infos sur franceinter.fr à la page On va déguster. Revenons, Charles Guériec. Et Alessandra Pierini, à nos anchois, car il n'est pas toujours simple d'y voir clair sur l'état des stocks de ce poisson en Méditerranée. Écoutez ceci.
En Catalogne du Sud, on en trouve toujours en Méditerranée, mais il est de petite taille, petit calibre, avec un problème de phytoplancton qui ne serait pas assez nutritif, selon les scientifiques. Après, on arrive à en trouver également au golfe de Gascogne, Pays Basque, France, Espagne, Portugal, c'est plus marginal. Et après, pour compléter, pour travailler tout au long de l'année, on fait appel à l'importation, Atlantique du Sud, Argentine. Après, ce qu'on met en avant, c'est le savoir-faire, les gestes ancestraux, qui finalement sont les mêmes aujourd'hui que ceux qu'on faisait au Moyen-Âge.
C'était Florent Roch de la conserverie traditionnelle Roch à Collioure, au micro du JT de France 3 Languedoc-Roussillon pendant la fête de l'anchois en juin 2023, donc c'était hier. La Méditerranée ne suffit plus à pourvoir les conserveries de Collioure, ce charmant port de la côte vermeille dans les Pyrénées-Orientales et capitale française de l'anchois. Et la conserverie Roch, l'une des plus anciennes conserveries, fondée quand même en 1870 par Alphonse Roch, importe environ 60% de son stock. Alors j'ai eu Florent Roch, j'ai tenu à l'appeler. Vendredi, je l'ai eu au téléphone. Il me disait que depuis 20 ans, les anchois étaient maigres, de petite taille, qu'il n'y avait pas, et c'est ça qui est inquiétant, de signaux d'amélioration depuis les années 2000. Alors, toutes les hypothèses sont sur la table. Pollution des eaux, réchauffement climatique, acidification des eaux, tous ces paramètres qui déstabiliseraient la ressource en phytoplancton, qui est la nourriture des anchois. Et Florent Roch conclut notre conversation téléphonique en disant... Je regrette qu'il n'y ait pas vraiment de gestion de la ressource, contrairement à une autre région du monde.
Oui, alors en Méditerranée, c'est vrai qu'on a mis plus de temps à prendre les mesures et à les imposer. Là, c'est en train de se mettre en place avec limitation des nombres de jours de mer, etc. Donc on va avoir des effets, mais c'est vrai qu'en Atlantique... On a pris des mesures dès 2010.
Et notamment du côté du golfe de Gascogne.
Et même bien avant pour l'anchois, donc dès 2005, on fermait la pêche à l'anchois. Et 5 ans plus tard, ça a eu un effet très fort.
Donc, ça a vraiment renouvelé les stocks d'anchois dans le golfe de Gascogne, à tel point qu'on a retrouvé de l'anchois en Cantabrie, cette région du nord de l'Espagne.
Exactement, et vraiment, les fermetures étaient drastiques. Et pendant, si je ne me trompe pas, c'est 5 ans de fermeture quasiment totale de la pêche, parce que le stock ne revenait pas. La bonne nouvelle avec ces petits poissons bleus que sont les anchois, c'est que ils se reproduisent vite et ils grandissent assez vite. Ils ont des cycles très courts. Donc en quelques années seulement, si on prenait l'exemple par exemple du thon ou du bar, il faudrait peut-être plusieurs dizaines d'années ou enfin en tout cas des temps beaucoup plus longs pour arriver à renouveler un stock. Donc avec l'anchois, on peut. Il y a un sujet peut-être en Méditerranée qui est plus important qu'en Atlantique, c'est le sujet du plancton. qui est pas assez riche, qui est moins diversifié. Et là, il y a des sujets certainement également de pollution. Donc à la fois peut-être un peu de surpêche, plus de la dégradation du milieu, ça fait un cocktail qui n'est pas très bon pour rétablir vos stocks.
Elvira Masson, nos auditeurs réagissent.
Ils s'émeuvent beaucoup, on a beaucoup d'auditeurs qui s'émeuvent de la situation de l'anchois de Collioure, mais Charles, vous avez répondu à cette émotion. Annie Gorichon, qui est en Haute-Garonne, revient d'un week-end à Collioure et s'émeut justement du fait que dans les aux cartes des restaurants, où on trouve beaucoup de spécialités à base d'anchois, quand elle a creusé un peu, quand elle s'est renseignée, on lui a expliqué qu'effectivement, les anchois venaient pour la plupart d'Amérique du Sud, Pérou, Argentine, et dans une plus petite quantité des côtes du Maghreb. Mais on a l'explication.
Mais j'ai appelé la criée de Port-La Nouvelle l'autre jour pour parler...
Resituez-nous Port-La Nouvelle.
Port-La Nouvelle, à côté de Narbonne, directement sur la Méditerranée, en bas de Toulouse, on va dire, si on peut dire. Vous savez, il y a plus qu'un bateau qui s'appelle le Giovanni Jean, qui est un chalutier pélagique. Moi, j'étais observateur des pêches à l'époque. C'est là que j'ai découvert l'anchois frais sur ce bateau-là, qui le fait encore, mais qui exporte beaucoup en Espagne, parce que c'est là qu'il y a les acheteurs qui sont prêts à en acheter des quantités suffisantes.
Nous avons Charles Gaillac, un ami en commun à Bastia, Sébastien Rialon,
oui,
pêcheur notamment de thon rouge. Il a son agrément et qui nous parle alors là d'un énorme potentiel d'anchois qu'on ne pêche pas au large de la Corse, d'autant que l'anchois fait partie du patrimoine culinaire de la Haute-Corse, puisque l'anchois à la bastiaise, c'est ce fameux anchois qui est conservé dans l'huile d'olive avec de l'ail et du persil. C'est absolument délicieux. Simplement, quand on achète de l'anchois à la bastiaise à Bastia, les anchois viennent de partout, du Pérou, d'Argentine, sauf de Corse.
Bah, j'en ai là, il y a même pas l'origine. Mais a priori, oui. Et c'est vrai que Sébastien disait, mais en fait, moi, des anchois, j'en ai plein chez moi, devant chez moi. Je pense que c'est le stock de Ligurie qui, lui, est en bon état. Et il disait, mais en fait, je le fais pas parce que j'ai pas de débouché, je peux pas l'envoyer sur le continent. Et il n'y a pas une conserverie sur place qui pourrait tout me transformer. Et moi, j'ai pas l'énergie de faire tout ça. Je fais déjà beaucoup de choses. Et c'est vrai que Sébastien se démène.
Donc la situation est très complexe. Alessandra Pierini, on sait que vous êtes ligure, même génoise. On sait qu'en Ligurie, l'anchois a un statut très intéressant, privilégié, très particulier. Qu'est-ce que ça donne, la réglementation de la pêche en Italie et l'état des stocks ?
Alors, pour l'instant, la disponibilité n'est pas en crise. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais quand même, pour pallier à une éventuelle diminution des stocks, l'Italie, en concomitance avec l'Union européenne, a mis en place surtout des quotas et surtout des réglementations saisonnières. Par exemple, l'anchois de Ligurie, on la pêche que entre le mois de mai et le mois de septembre. Et l'anchois du sud de l'Italie, là on arrive vraiment à la fin, et dans le sud de l'Italie, donc à Cetara, dans la mer Tyrrhénienne, là la pêche est réglementée entre le mois d'avril et le mois de juillet. Donc il y a vraiment une très courte période, on fait vraiment très attention que la pêche soit durable, avec des petits bateaux, tout fait à la main. Et surtout avec des filets qui empêchent donc de capturer de tout petits poissons pour leur donner le temps donc de grandir, d'être donc disponible que à l'âge adulte.
Citez-nous une ou deux recettes ligures à base d'anchois.
Alors c'est l'acciuga farcita, les anchois farcis avec la chapelure, l'ail et persil. Mais comme vous disiez tout à l'heure, qu'on avait mangé d'ailleurs ensemble dans un magnifique restaurant, le Bacicin Ducaro, une osteria où vraiment l'anchois est roi, surtout un antipasto avec ail, persil et la bonne huile d'olive de Ligurie.
Et comme la vie est bien faite, Fabrice Rivaud, qui prépare l'émission avec nous, a mis la recette de ces anchois farcis.
Anchois farcis en vidéo. Sur le site.
Et si vous avez des anchois frais, je peux vous assurer que c'est une recette absolument extraordinaire. Nous étions à Collioure. Eh bien, on y reste avec Dominique Hutin.
On va déguster sur France Inter.
Dominique Hutin, vous êtes parti en enquête à Collioure au risque de vous transformer en anchois.
Je ne sais pas, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est une aventure qui commence lundi dernier, un mystérieux coup de fil, 3h du matin, en pleine nuit.
Je décroche. Allô, François Régis.
Ouais. Une émission sur l'anchois, bah ouais, super. Bah oui, super, 3h du matin, bah évidemment que c'est super.
C'est bien mon genre.
Bah évidemment. Non, en vérité, j'étais ravi, pour dire vrai, de pouvoir aller pister enfin cette rareté. Ce vin quasi disparu, dont le souvenir était un peu enfoui dans les caves du Roussillon, le Rancio sec, ce vin de l'oubli, ce vin de l'abandon. Alors, en revanche, si vous scrutez la carte de la France, depuis Mont-Cotentin, le Roussillon, c'est près de la frontière espagnole, c'est un peu la diagonale du fou. Mais c'est pas grave. Je fonce, 5h15 debout, 7h20 parking de l'aéroport de Caen, 8h10 je suis au guichet, et là je pense que les gars de la SNCF ont dû appeler l'aéroport en mode « Hey, on vous envoie un type, ça fait des années qu'on lui fait toutes les misères possibles, allez-y, faites-vous plaisir !» Et effectivement, À Caen, on a un sens du raffinement assez subtil. Monsieur Hutin, il n'y a pas assez de place dans l'avion. Votre nom a été tiré au sort. C'est vous qui restez au sol. Véridique. Alors, heureusement, il doit y avoir un dieu du service public. Deux places se libèrent. 9h, je m'envole pour Montpellier. 13h30, je suis dans le train. Et là-bas, le train, attention, le nom des gares, c'est la carte des vins. Frontignan, Rivesaltes, Banyuls, Collioure. Ça tombe bien parce que Collioure, c'est justement là que j'ai rendez-vous. Et mais en fait, c'est surtout là que je vais regretter d'avoir séché les cours de sport. Pourquoi ? Parce que ça monte. Mais ça monte ! Et ça monte autant qu'il fait chaud. Ressenti 72 degrés à l'ombre. J'ai vraiment du mal. Je me demande pourquoi j'ai quitté le Cotentin. Eh bien, je sais pourquoi. J'ai rendez-vous avec un vigneron très particulier. 16h, enfin, La Tour Vieille, Vincent Cantier, qui a cette particularité, certes, de produire des grands vins, mais en plus d'être issu d'une grande famille de saleurs d'anchois.
Ah.
Nous goûtons d'abord voilà. Son Canadels, son grand vin blanc de Collioure. Elvira, il est dans ton verre. Elle l'a pris. Voilà.
Vous avez un anchois coincé dans le...
Un petit peu, oui, vous l'avez envoyé tout à l'heure. Et après ce vin blanc sec, on goûte surtout ses rancios, ses mémoires d'automne, ses capes de creuse. Et là, le temps s'arrête. On parle système de Solera, quand on prélève chaque année du vin d'une barrique qu'on remplace par la même quantité de la dernière vendange qui crée un système de vin perpétuel. On évoque ces fûts qui sont laissés en vidange pour produire des vins oxydatifs. On évoque ces bonbonnes de verre qui sont pleines de vins, qui sont abandonnées à la morsure du soleil pendant un an. Eh bien, tous ces vins, tous ces processus donnent ce goût oxydatif, ces arômes de figues, de raisins, de noix. 18h, l'apéro approche, Vincent s'enflamme, l'anchois, c'est au sel qui doit être fait, il doit être confit, rouge à l'arête.
Gros débat.
Et voilà, j'ai consigné tout son témoignage sur notre site. Et puis, comme pour appuyer son propos, 19h, arrivent Frédéric et Étienne Montes, domaine La Casonove. Étienne lit la traduction d'un texte catalan, Ce que nous avons mangé, qui nous raconte comment les anchois sont vendus trop tôt avant d'être confits. Ils vous ont vendu du chat pour du lièvre. Là aussi, vous retrouverez son témoignage sur notre site. 20h, nous dégustons Laurentio 2011. Attendez, la bouteille est là.
C'est moi ? C'est ce que j'ai dans mon verre, non ?
Pas encore. Ah. Quelle impatience, celui-là. 22h, la cave est géniale. Il fait frais, plus de réseau. Je choisis de dormir ici, entre autres, pour ne pas recevoir d'appels nocturnes intempestifs. Mardi, 10h30, j'arpente le vignoble qui se jette dans la mer, à perte de vue, des terrasses, des milliers de kilomètres de murets, de pierres sèches, des pentes à plus de 30%, à plus de 30%. Ces paysages de la côte vermeille sont absolument fous, et évidemment, je la renomme immédiatement Côte Merveille. 15h, la Tour de France, là, dans le secret d'une cave centenaire, le domaine Rancy, Brigitte Verriadère me conte l'histoire, cette disparition de ces rancios dont personne ne voulait plus, qui ne servait plus que d'ingrédients pour la cuisine. Ces vins sont insensés, ils s'arrachent. Aux quatre coins du monde, nous dégustons jusqu'en 1952, vous les trouverez sur notre site. 20h37, je suis enlevé dans la rue, jeté dans un coffre de voiture, je me retrouve attaché à une chaise au restaurant, le Grain de Folie à Perpignan, et là, trois bouchées aux anchois, dont un pop-corn aux épices massalées. Trois recettes différentes, avec trois rancios différents, et évidemment, Fabrice Rivaud, les amis, sur notre site.
Et on espère que l'anchois était local.
Je poserai la question. Et enfin... Jeudi, 14h15 du matin, coup de fil, devinez qui ? Alors, c'est Rancio sec, on se voit dimanche à la radio, hein ? Ben non, en fait. Ah non, pas du tout. Ça sert à rien que je viens de tout vous raconter à l'instant. Vous n'avez pas écouté. J'ai même rajouté deux livres, les livres d'Alain Potier qui nous parle des Rancio secs. J'ai rajouté aussi trois événements majeurs qui commencent dès la semaine prochaine à Banyuls. Et enfin, j'ai mis 65-20 des Rancio secs, évidemment, des Collioure, mais aussi des vins doux naturels. Allez, bisous, moi j'ai un train qui m'attend.
Mais j'ai une petite merveille dans mon verre, au reflet ambré, avec ses notes oxydatives,
de
Rancy. Fruits secs, de noix.
Absolument fabuleux.
C'est étonnant.
Et moi c'est magnifique ce que je bois aussi. Hein.
Alors ça c'est le Canadel, c'est le vin sec, pour aller plutôt avec les
anchois.
C'est un
paysage dans une bouteille, quoi. C'est magnifique.
Absolument. Il y a un bonhomme dans la bouteille, il y a vraiment des paysages dans ces bouteilles-là. Ouais.
Et point commun entre ce qu'on a dans nos verres et ce que va bientôt nous faire goûter Alessandra Pirini, c'est qu'il est question de fermentation.
Ah oui, absolument.
On va en parler.
Il y a un bon lien avec toutes ces choses, bien sûr.
On se retrouve pour parler anchois, évidemment. Anchois frais, anchois en conserve, anchois fermenté. Dans un instant, c'est Laurane Thomas qui réalise l'émission avec Mathias Alléon à la technique, Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. On se retrouve après un nouveau titre choisi par Djoubaka sur la playlist de France Inter, un titre de circonstance, Méditerranée Junior. Bon appétit sur France Inter.
La chaleur accablante s'en met sur le rivage.
anchois au menu dont on va déguster. Et Charles Guerriec, dans nos assiettes, nous prouve que l'anchois frais, à condition qu'il soit évidemment bien frais, est excellent lorsqu'il est consommé cru avec, on va dire, une petite marinade minute.
Oui, c'est ça, j'ai mis un petit peu de citron jaune, on peut mettre du vert aussi, là, il sera resté un petit quart d'heure dedans.
Tout ça vaut couvert autour du plateau dont on va déguster.
Et puis un peu de sel, un peu de basilic, voilà, quelques herbes, moi c'est comme ça que je l'ai apprécié vraiment la première fois que j'en ai mangé à bord d'un bateau de pêche.
Et c'est une recette géniale pour ceux qui pensent ne pas aimer l'anchois.
Voilà, ça m'a réconcilié avec l'anchois.
Trop salé, hyper saturé, de mauvaise qualité qu'on trouve parfois sur les pizzas.
Elvira m'enlève les mots de la bouche.
C'est vraiment ça, voilà. Quoi.
On est dans une douceur et un fondant qui n'a rien à voir avec cette espèce de morsure salée et amère.
Puis on est encore un peu plus gras que la sardine. Enfin, moi, la première fois que j'ai goûté, je me suis dit, OK, j'ai compris pourquoi les Espagnols l'avaient surexploité.
Ouais. Il y a une suavité, il y a du.
Vraiment très, très bon.
Redites-nous comment vous l'avez assaisonné et un peu de persil.
Juste, donc j'ai levé, on montrera comment faire ça.
Alors après. Là, on va faire un tuto vidéo. Parce que c'est très simple, en fait, à évider. On s'y prend par la tête.
Faut tirer par la tête et puis après, on appuie un petit peu avec les pouces. En fait, ça se sépare.
Pour enlever la tripe.
Voilà, on enlève la tripe, puis après, on enlève l'arête centrale, on coupe. On garde juste la pointe si on peut pour avoir la queue et pouvoir le manger par le bout de la queue si on veut être un peu distingué à table, si on n'a pas de couvert. Et après, en fait, juste poser la chair contre l'assiette, je mets un petit filet de citron, ça, là, c'est resté un quart d'heure. Alors, selon vos goûts, quelques secondes à une demi-heure, si vous voulez un peu trop cuire. Basilic, un peu de fleur de sel, les herbes que vous avez.
Délicieux.
Et puis un petit filet d'huile d'olive. Et
on nous demande sur notre mail si l'anchois s'écaille.
Non, l'anchois ne s'écaille pas besoin. Non,
voilà, on le vide.
Oui, en plus, souvent, il a très peu d'écailles. Il a très, très peu d'écailles.
On a tremblé ces derniers jours, Charles, parce que vous nous disiez, mais je suis pas sûr de trouver des anchois frais. Comment vous y êtes pris?
Bah, nous, déjà, chez Poiscaille, on n'en fait pas parce que c'est souvent pêché avec des techniques de pêche et des tailles de bateaux qui ne rentrent pas dans nos critères. Et on en a eu par des petits pêcheurs qui pêchent à la Bollinge, donc à la fameuse Seine. C'est un appel, d'ailleurs, s'il y a des pêcheurs marseillais qui cherchent à valoriser leurs anchois, qu'ils appellent Poiscaille, parce que nous, en Corse, ou à Marseille, ou à Collioure, mais je sais que Collioure, il n'y en a plus. Et donc, en fait, difficile d'en trouver. Donc, je suis allé faire les marchés. J'ai fait hier 3 marchés différents, une quinzaine de poissonniers au total, 0. Et là, j'en ai trouvé ce matin, marché Place de la Réunion, dans le 20e, et marché de la Croix de Chavaux, à Montreuil, pour ceux qui habitent pas loin. Je pense que les marchés où il y a des publics plutôt Afrique du Nord sont plus habitués et en ont plus souvent. C'est un poisson pas cher qui vaut 9,90, 8 euros le kilo. Par contre, qui est très très fragile. Donc il faut des marchés qui aient du débit. Et souvent, les poissonniers me disent bah non, mais nous, on en a pris 4 kilos l'autre jour, on en a vendu 1 kilo, on a jeté le reste. Donc c'est dommage. Demandez-en à votre poissonnier parce que franchement, ça vaut largement le coup.
Charles Guerriec, petit cours de sciences naturelles. Pourriez-vous nous resituer ce petit poisson? Fait-il partie, mais je crois que vous avez un peu répondu à la question dans la première partie de cette émission, de la fameuse famille des poissons bleus? Ces poissons gras au flanc bleu argenté comme la sardine, le maquereau, le chinchard?
Exactement, c'est tous ces poissons qui sont en pleine eau, donc dans le bleu comme on dit souvent, et qui ne vont jamais se poser au fond. De l'anchois, on va dire, le plus petit, le thon rouge fait partie de la famille des poissons bleus parce qu'il n'a pas d'interaction avec le fond.
Mais en revanche, les anchois forment une famille à eux tout seuls. Il n'y a pas forcément une parenté en termes biologiques.
Les fameuses angrolidés. On a 5 espèces d'anchois dans le monde. On est chez Angrolis incrasicolus.
Bravo.
Donc ça, c'est celui qui est côté Atlantique. On en trouve dans quasiment toutes les régions du monde, à part, j'ai regardé, l'Amérique côte Est, et donc Amérique du Nord, pardon, côte Est, et le Moyen-Orient, là, dans tout l'océan Indien. Après, on en trouve partout, Pacifique Est, donc plutôt côté Argentine, où il y a la plus grande pêcherie mondiale d'anchois, quasiment 5 millions de tonnes pour l'anchois dit du Pérou, qu'on transforme malheureusement en farine, on va en reparler après.
Ou maintenant.
Et en fait, faut savoir que la principale pêcherie, une des principales pêcheries au monde, la principale pêcherie d'anchois au monde, c'est l'anchois du Pérou. Donc quasiment 5 millions de tonnes, je crois qu'on est monté à 7 ou 8 millions de tonnes, c'est presque 10% de la pêche mondiale, donc c'est énorme. 80% de cette pêche, elle est transformée en farine pour nourrir nos saumons norvégiens, alors que c'est le même poisson, ou en tout cas les qualités gustatives sont les mêmes. Et on pourrait tout à fait le mettre en conserve, le surgeler, le saler, enfin faire le même travail qui est fait en Europe.
Mais il s'agit, de fermes aquatiques, Dominique, ou ce sont des poissons sauvages?
Non, l'anchois est pêché sauvage. On est sur une zone dite d'upwelling, donc c'est des zones où en fait il y a des eaux froides du fond qui remontent, qui sont très riches en plancton. et qui varie très fortement selon les années, parce que les petits poissons bleus ont des cycles courts et donc varient très fortement en production. Mais l'essentiel de cette pêche, elle est destinée à la farine. Elle fait partie des fameux 30% de la pêche mondiale qui sont destinés à faire de la farine, alors qu'on pourrait manger ces poissons en frais.
L'anchois du Pérou est une espèce, n'est pas forcément pêchée par le Pérou. C'est le nom de l'espèce.
C'est Chili, Pérou, Argentine. Tout à fait. Il y a trois pays qui se le partagent. La zone de répartition, elle est entre trois pays.
5 millions de tonnes de pêche d'anchois par an, d'anchois du Pérou, et seulement sur ces 5 millions, 1 million, c'est-à-dire un cinquième de ces captures qui sont destinées à l'alimentation humaine. Le reste, comme vous le dites, est transformé en farine, en huile de poisson. En gros, quand on mange du saumon de Norvège, on sait que c'est nourri avec des anchois du Pérou, c'est
ça ? Il y a des fortes chances que ce soit nourri avec des anchois du Pérou. Et donc, ça c'est un peu dommage comme circuit. Comme disaient certains scientifiques, c'est comme si on nourrissait des loups ou des lions avec des vaches pour manger les loups ou les lions. Donc dans l'ordre de la chaîne alimentaire, c'est pas forcément le plus cohérent.
L'anchois, on le trouve conditionné de toutes les manières, à l'huile, au sel, à travers toute une diversité de marques et de conserves, des bocaux, des boîtes en métal. Et là où c'est très compliqué, c'est de tracer finalement l'origine de l'anchois contenu dans ces conserves. Il y a même des numéros et des codes assez compliqués à décrypter.
Bah, en fait, sur tout ce qu'on achète en produits de la mer, on doit renseigner normalement la zone dite FAO. Mm-hmm. Donc Food and Agriculture Organization, c'est les Nations Unies de l'alimentation. Et donc, en fait, ça permet de savoir de où ça vient. Nous, en France, en gros, on a deux zones, la zone 27 pour l'Atlantique, la zone 37 pour la Méditerranée. Mais malheureusement, on peut avoir des zones beaucoup plus éloignées. Mais là, j'ai quelques boîtes.
Mais ces zones sont inscrites sur les emballages ?
Elles devraient être inscrites. Alors, je ne connais pas la réglementation pour les filets et les produits transformés, mais là, on est à plus de 60% d'anchois et c'est pas marqué, ce qui est dommage. Là, j'ai juste marqué anchois pescado, donc juste pêché, et juste pas élevé, mais l'élevage d'anchois n'existe pas. Et sur les autres, il n'y a pas la zone de pêche.
On devrait avoir comme tous les rayons poissons, finalement, par exemple, Atlantique Nord-Est, ou les choses
sur les boîtes de sardines, sur les boîtes de thon, vous l'avez.
Ou poisson frais.
La zone FAO et
donc
en poisson frais.
On a bien affaire à un poisson totalement mondialisé.
Et c'est dommage. Bah, exactement.
Tout à fait, hein, bien sûr, parce que là, normalement, on devrait avoir donc ces codes, hein, comme nous avons aussi dans énormément d'autres conserves, et surtout que, bon, surtout les conserves, comme on en parlera tout à l'heure, ça touche aussi bien la Méditerranée que l'Asie, et ça serait bien de savoir exactement d'où ça vient.
Donc 27, 37, c'est idéalement, c'est France. 34, c'est Afrique de l'Ouest, donc ça reste pas très loin. Toutes les autres zones,
ça 75, c'est Paris.
Il n'y a pas la FAO 75.
Il n'y a pas encore d'anchois qui fraye dans la Seine. L'anchois, c'est un poisson qui se consomme et qui se cuisine frais, on l'a vu, même cru. On peut aussi l'utiliser comme une virgule saline en conserve à l'huile ou au sel, mais c'est aussi un poisson universel qui connaît une transformation beaucoup plus profonde et qui s'est fait une place au soleil dans de nombreuses cuisines du monde. C'est tout l'enjeu d'un nouveau livre auquel vous avez prêté main forte, Alessandra Pierini, Garo Garum, un voyage dans le temps et dans l'espace, puisqu'on remonte quand même à l'Antiquité romaine et même au-delà. On voyage de la Méditerranée à l'Asie, Gare au Garum, un projet collectif orchestré par Patrick Cadour.
Absolument, c'est une aventure très savoureuse à laquelle j'ai participé pour le côté italien. Donc c'est Patrick Cadour qui a fait le tour du monde des sauces fermentées avec d'autres collaboratrices, parce que ce sont toutes des femmes. Mm-hmm. Entre autres, c'est Minh Tham Tran pour le Vietnam.
Et oui, bien sûr, avec le Nhoc Mam. Très important pour la culture de l'anchois.
Claire Pichon pour la Thaïlande avec le Nam Pla. Margot Zhang pour la Chine avec la sauce d'huître. Luna Kyung pour la Corée. Shiro Masui pour le Japon avec les gyocho. Maïalène Zubilaga, donc pour le sud de la France, où on produit encore une petite production de pissala et de mêlée autour de l'étang de Berre de Martigues.
Et profitons-en pour dire que Maïalène Zubilaga a d'ailleurs signé l'anchois 10 façons de le préparer aux éditions de l'Épure. Je crois qu'il est sorti au
tout
printemps
à fait.
Dernier.
Au mois de mai, tout à fait. Donc c'est un très, très bel opus.
Alors, entre tous les pays que vous avez cités, le Vietnam, la Thaïlande, la Chine, la Corée, attention, j'ai regardé ça, Corée du Sud. Évidemment, premier consommateur d'anchois au monde.
Et la variété Japonicus.
La variété Japonicus.
La Corée pile dans la zone d'abondance de cette espèce-là.
Et là, on parle, dans votre livre évidemment, de l'anchois, mais en version, allez, comment le dire, pourri, putrifié.
Oui, c'est
un anchois qui a été transformé par une certaine action, un processus de transformation, mais qui fait que cet anchois, une fois transformé, est véritablement un exhausteur de goût, porteur d'une saveur très profonde, qu'on va qualifier de umami. Au départ, il y a une équation de transformation.
Oui, c'est une équation très simple, hein, du sel, du poisson et en temps de transformation. Donc, qui donne en fait le résultat de la lactofermentation, qui est un mode de fermentation en absence d'air, d'oxygène, surtout, qui transforme les sucres présents dans dans le poisson en acide lactique. Et cet acide lactique plus le sel permet donc empêche la putréfaction, permet la formation de bonnes bactéries et empêche que les bactéries pathogènes se développent. Donc, il y a une très bonne conservation grâce aussi au sel, hein, qui est un fort antiseptique. Et donc, ce processus permet aussi, avec l'hydrolyse, de faire. Donc, l'hydrolyse, c'est la décomposition d'un corps chimique avec la présence de l'eau. Ça permet donc la formation de ce garum, ces chairs que d'abord d'une consistance un peu charnue deviennent une bouillie et ensuite un liquide.
Alors le garum, c'est évidemment ce fameux condiment, je dis fameux, et en même temps il n'est pas si connu que ça puisqu'il a quasiment disparu, même si on va voir qu'il a évidemment ses descendants modernes entre guillemets. Mais le garum, on parle là d'une sauce des Romains qui... globalement, sans être trop caricatural, asperger à peu près toutes les préparations, comme aujourd'hui on mettrait de la sauce soja un peu partout.
Bien sûr.
Et ce garum était fait à base essentiellement d'anchois, même s'il y avait aussi, il y a des qualités différentes et d'autres poissons.
Oui.
Et il s'agissait d'un processus de lactofermentation dans des jarres pour intensifier le goût des préparations culinaires.
Absolument.
Les origines du garum.
Surtout des jarres, voilà, qu'on laissait à température ambiante et même au soleil, hein, pour donc augmenter la fermentation. Mais le garum, les Romains ne l'ont pas inventé, en fait. Eux, ils l'ont piqué aux Grecs. Mais vraiment, le berceau, il se situe en Mésopotamie, surtout en Babylone. On a trouvé une recette sur des tablettes qui datent de 1700 ans avant notre ère. Donc, il s'appelait le sicu. À partir de ce sicu, donc, les Grecs ont commencé à produire le garos. Le garos, c'est le nom d'un petit poisson. Et d'après ce qu'on a vu, donc, dessiné, sculpté sur les amphores, serait de l'anchois. Les Romains ont commencé à préparer, juste après les Grecs, leur garum, qui ont légèrement modifié la recette en introduisant aussi d'autres poissons, même des poissons un petit peu plus gros et surtout entiers. Donc la viscère du poisson permet donc cette autolyse, donc augmente la fermentation. Ils l'ont condimenté avec des épices, avec surtout des herbes aromatiques. Et ils en ont fait une pâte d'abord, qui est appelée alec ou Alex, et une partie liquide qu'ils appelaient le liquamen. Et donc ça constitue vraiment le garum à partir duquel beaucoup d'avatars dans le monde entier, même dans l'Europe du Nord et aussi dans tout le côté asiatique, se sont développés.
Et oui, parce que le garum a à peu près disparu de notre paysage alimentaire, même si encore une fois on va voir qu'en Italie il y a des reliquats évidemment de ce garum. Par contre, quand on se tourne du côté de l'Asie du Sud-Est, il y a notamment ce condiment sans lequel la cuisine vietnamienne ne serait pas la cuisine vietnamienne, mais ce condiment a des équivalents dans la cuisine thaïlandaise, même au Japon, en Chine, etc. Le fameux Ngoc Mam, qui développe de l'umami, qui apporte une intensité en saveur.
Et qui est le marqueur en fait, de toute cette cuisine asiatique.
Mais est-ce qu'il y a une parenté entre le garum des Romains, le Ngoc Mam des Vietnamiens, ou est-ce que c'est deux préparations qui se sont développées de façon spontanée, parallèlement?
Absolument. Ça a été deux préparations qui se sont développées indépendamment. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est en fait le contexte culturel, géographique aussi, et culturel dans lequel se sont développées. Et la différence, c'est que surtout en Asie, on l'utilise encore énormément. Et en fait, c'est en Europe où on l'utilise beaucoup moins. Donc c'est ça l'énorme différence. Mais le Ngoc Mam s'est développé à partir du 6e siècle de notre ère. Et juste avant, c'était en Chine. Il y a plus de 2300 ans qu'on a commencé à faire fermenter des poissons pour en faire une sauce.
Alors on a des avatars modernes aujourd'hui, de condiments, de pâtes ou de sauces préparées à base d'anchois, ne serait-ce que dans le sud de la France.
Oui.
Puisqu'on a, vous l'évoquiez...
On parlait donc des mêlées du pissala, le pissala plus provençal. Et les mêlées, vraiment, le pissala est préparé avec avec des différents poissons. Les mêlées, c'est vraiment concentré à Martigues et autour à Port de Bourg, autour de l'étang de Berre. Et là, on le prépare avec les mêlettes, qui sont surtout les anchois. Et ce sont plus des pâtes de poissons. Le pissala donne le nom à la pissaladière.
Eh oui, il n'y a pas de pissaladière sans anchois.
Vraiment, ou sans pâte d'anchois. La cuisine provençale.
Et il y a
en Italie.
Ah bah en Italie, bah ça y est, évidemment.
Il faut y arriver.
Il y a Alessandra.
Que...
Non, mais il y a une liqueur emblématique. Oui. On va l'appeler une liqueur de poisson.
Oui, on peut le dire.
Même si c'est un jus de poisson pourri. Une liqueur emblématique qui sert d'ailleurs d'ingrédients à la magnifique tarte que vous nous avez apportée. Ah, oui. Vous en avez une deuxième part.
Et oui, j'ai eu un peu de rab. Elia. Que je suis très sage.
Elle est en pleine croissance.
Mais c'est ça, parce que alors ça c'est quand même merveilleux.
C'est la pizza di Scarola, la pizza de Scarole. Mm-hmm. Donc la Scarola, c'est cette salade amère qui commence toujours juste à pointer le nez sur les marchés.
Oh, le pied.
Et qui n'est pas une pizza, hein, comme nous connaissons, mais c'est plutôt une tourte salée où il y a une pâte qui recouvre et donc qui est farcie de cette Scarole qui a été braisée, poêlée avec bien sûr des anchois, de la colatura d'anchois, des raisins secs, donc pour donner la douceur,
des
pignons, des olives tajasque. Et donc, moi, c'est tout ce que j'aime. Hein.
Alors, ça fait la structure de la pâte est très différente de celle de...
À la pâte de la pizza, ça n'a rien à voir. Hein.
Et
c'est
on sent
plus
pas l'anchois comme dans une pizza.
C'est ça qui est intéressant. J'allais faire... Charles le dit à ma place, mais c'est qu'on ne sent pas l'anchois. Mais l'anchois, toutefois, par la colatura di alici, apporte une persistance en bouche.
Une longueur
Une sapidité. Absolument extraordinaire. Un petit mot sur la colatura di alici, qui pourrait être un peu le descendant du garum.
C'est vraiment le descendant romain. Du liquamen, donc de la partie liquide du garum, qu'on produit encore aujourd'hui à Cetara, dans la région de la province de Salerne, en Campanie. Et ça se produit vraiment encore dans le moment de pêche des anchois, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le courant fin de printemps, tout début de l'été, avec les petits bateaux. La nuit, on pêche ces anchois. Et donc, qu'on éviscère, on étête. Donc, ils sont pas. Il n'y a pas l'intérieur du poisson comme dans le garum de Romain. Donc, c'est plus subtil, c'est un peu plus délicat. Les anchois, on les empile dans des petits fûts en bois, très serrés, avec des couches de gros sel. Et on les laisse le temps qu'il faut. Et ensuite, le liquide qu'ils produisent est extrait, en fait, par le fond de ce fût. Et par goutte à goutte, on le met dans des petites bouteilles, on s'en sert, parfois filtré, parfois pas du tout. Donc il est légèrement ambré, très parfumé.
Et c'est d'ailleurs un goût extraordinaire. Contrairement à son nez, qui, comme pour le gnocchman, peut être carrément... Il peut y avoir des odeurs de cadavre, disons-le. Oui. Mais par contre, quelques gouttes relèvent totalement un plat, donnent du relief.
Ça donne du relief et de la profondeur, c'est pas agressif du tout. D'ailleurs, ça se marie très bien avec l'amertume de la Scarole. Alors qu'on pourrait s'imaginer que la colatura et l'amertume, ça n'irait pas bien ensemble. Hyper équilibré.
Ça ne le renforce en fait. Ça fait ressortir.
C'est magnifique.
C'est très complexe, en fait, dans le goût. Et en fait, le goût n'est pas aussi fort que l'odeur.
Colatura di alici, un magnifique condiment de Campanie. Ça se fait toujours de manière très traditionnelle à côté de Naples et c'est une découverte qu'on avait faite ensemble, notamment.
Bien sûr.
Mais c'est vraiment un savoir-faire d'exception. On se retrouve dans un instant pour des anchois frais en friture. Vous êtes prêts ou pas, Charles Gaillec?
Ah oui, je vais mettre à chauffer l'huile.
Mais également une superbe recette vietnamienne, on va aller du côté de l'Asie. Que faut-il penser aussi du nouveau livre de Yota Motolenghi, où il est peut-être question d'anchois, avec Elvira Masson?
Più. potrai più ritornare. Ogni giorno l'ora del tramonto sempre sarà. Il mio mondo è nero come nera l'oscurità. Di notte il cielo senza stelle è tutto nero. Così il mio cuore fino all'ultimo pensiero.
Qu'est-ce qu'on écoutait? C'était une petite surprise pour vous, Alessandra Pierini.
Oh, merci beaucoup, j'adore. C'était Caterina Caselli avec Tutto Nero, qui est une reprise de Painted Black des Rolling Stones.
Avec un millésime génial.
1966, bien sûr.
L'année de naissance d'une personne autour
J'en
de ce plateau.
J'en dirai pas plus.
On n'en dira pas plus, c'est ça.
On va déguster. Sur France Inter.
L'anchois, un poisson de choix, j'ai même envie de dire l'anchois, un véritable poisson de civilisation. On explore tous ses contours et toutes ses préparations culinaires avec nos invités. Alessandra Pierini, qui a contribué à ce très beau livre « Garo Garum », orchestré par Patrick Cador aux éditions de l'Épure. Nous avons également Charles Guériec, fondateur de Poiscaille, qui est au-dessus de la casserole dont on va déguster, au-dessus de la plaque de cuisson. Vous êtes en train de nous faire carrément une friture d'anchois frais.
Exactement, là, on les a juste passés dans un peu de farine avant de les mettre dans l'huile chaude.
Attention, c'est encore chaud.
Filets levés.
On va faire tourner.
Non, entier, juste vidé en tirant sur la tête. Attention, ça doit être bien chaud.
Combien de temps de cuisson?
J'ai raccourci mes 3-4 minutes, quoi. Normalement, j'ai pris les plus petits exprès pour aller plus vite, mais avec des gros, ça peut marcher aussi.
Donc, on les évide.
On les évite, on les nettoie, on les sèche un petit peu parce qu'on va les mettre dans l'huile après.
On les farine ou pas?
On les farine.
Ouais.
Et idéalement, si on a un barbecue, alors là, c'est le summum. Si vous pouvez faire au barbecue, c'est magique.
Dans le studio, c'est une bonne idée. Ouais.
Voilà. Plutôt avec des gros. Et les petits, plutôt à la friture.
Parce qu'alors là, cette friture, on parle de quelle huile végétale?
Bah là, on a de l'huile de friture classique, tournesol ou autre. Il y a pas de.
Ah d'accord. Bon, vous ne citez pas de marque, c'est bien.
Non, il y a pas besoin d'une faut une huile qui tienne la friture plutôt bien.
Plein d'auditeurs et d'auditrices nous demandent. Et là, alors bon, je vais prendre un petit cours de prononciation avec Elvira, ma voisine de gauche. Et la sauce Worcestershire sauce dans tout ça.
On dit comme on aime, pleine. Non?
Comment on dit déjà?
Soit on dit Worcestershire. Soit on dit, si on veut se la raconter, Worcestershire.
Worcestershire.
Ouais.
La Worcestershire, effectivement, elle intervient dans le steak tartare, elle intervient dans la sauce de la César salade, elle intervient. C'est une espèce de condiment dont sont totalement accros les Anglais. Hein.
Condiment assez industriel d'ailleurs.
Et il y a bel et bien l'anchois.
Mais je crois bien.
Hein? C'est un avatar du New York Mam. Hein. C'est un petit peu l'héritage de la colonisation de l'Empire britannique en Asie. Mm-hmm. Et on l'a obtenu par hasard en laissant pourrir pendant 2 ans un mélange d'ingrédients, dont de l'anchois, du vinaigre, de l'échalote, du tamarin, de l'ail. Et on a découvert au bout de 2 ans que c'était une sauce extraordinaire.
On avait un truc pas trop dégueulasse. Ouais,
voilà.
C'est ça. Et ça a été inventé par 2 droguistes dans les années 30, visiblement, puis commercialisé à partir de 1837. Les Anglais ont donc des traditions. Non, je plaisante, j'adore, j'aime beaucoup l'Angleterre et j'aime beaucoup sa cuisine. J'en perds mon latin. Si, il y a aussi des auditeurs et des auditrices qui nous demandent s'il est possible de faire un garum ou un gnocchmam à la maison.
Absolument, on en donne d'ailleurs différentes recettes. Dans le livre, il y a 150 recettes, dont des différents condiments, dont le garum des anciens romains, mais même la colatura. Et on peut également faire des garums végétariens à base de champignons, de légumes, de soja, de céréales.
J'ai dans la porte de mon frigo un gnocchmam de champignons signé du chef de Copenhague, René Redzepi. On s'y tromperait.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on parle là d'un gnocchmam totalement vegan, alors qu'avec cette puissance qu'on croirait tirée du poisson, et il n'y a pas un gramme de chair marine dans ce gnocchmam. Voilà pour l'anecdote. Yota Motolenghi, c'est l'ami d'Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
C'est mon ami et l'anchois est son ami.
Oui, parce que l'anchois serait même peut-être le meilleur ami de ce célèbre chef israélo-britannique.
Mais comme quoi, il y a quand même des choses bien qui viennent de Grande-Bretagne.
On est bien d'accord.
On est d'accord.
Bien sûr.
Il suffit de feuilleter ses livres, de Simple à Plenty, de fouiller en ligne pour retrouver ses recettes parues dans le Guardian. Pour se faire une idée, il y a des anchois à l'huile, je précise, partout. Ils servent à assaisonner, à saler, à donner de la profondeur et du relief. Il n'y a que dans son livre Jérusalem que je n'ai pas retrouvé de traces d'anchois. L'anchois est présent dans beaucoup de recettes de pâtes chez Ottolenghi, parce que comme son nom l'indique, il est d'origine italienne par son père. Des spaghettis, salicorne, ail, vin blanc et anchois. On valide ou pas, Alessandra?
Oui, ouais. On peut valider, oui, oui. Oui.
Du bout des lèvres. Alors,
dès qu'on fait un pas de côté en matière
alors,
de passage.
Alors, des spaghettis, citron, ail, cébette, sardines et anchois.
C'est quand même
pas mal, non?
Très italien, ça.
Oui, très italien. Il fait un stew, un ragoût d'orge, tomate, cresson et chou rave caramélisé avec une huile aux anchois et à l'ail. Une salade de haricots verts rôtis, tiède, avec une sauce anchois, huile, ail, poivre. Une tranche de céleri rave travaillée comme un steak, avec une sauce anchois estragon. Bien sûr des aubergines, sa grande passion, sauce tomate, yaourt grec à la nette et anchois. Il va même jusqu'à rendre hommage à une recette suédoise classique, un plat d'hiver, de Noël même, qu'on appelle la tentation de Jansson, un gratin de pommes de terre aux anchois sucrés. En réalité, bon, Charles, ce ne sont pas des anchois.
Attendez.
Non, non.
Ah. Gratin sucré.
Il y en a oui, pas en gratin. Suède, mais non, mais on met toujours un peu de sucre en Suède. On est d'accord.
Après les Anglais, ouais. Les Suédois, on va.
Tentation de Jansson, gratin de pommes de terre aux anchois sucrés, ce ne sont pas des anchois, mais des sprats, j'imagine, oui. Dans la Baltique, non?
Tout à fait. Bon.
Et Ottolenghi a transformé ça en pitivier de pommes de terre, topinambour et anchois. La preuve de la grande variété de ses inspirations et de sa grande ouverture au monde. Et c'est tout le propos de son tout nouveau et formidable livre, Comfort, Comfort plutôt. Alors appliqué à la cuisine, Comfort, c'est une notion qu'il définit ainsi. La comfort food relève à la fois du confort et du réconfort. Or, ce qui réconforte est très variable en fonction des goûts et des origines. Ainsi, la pizza réconforte les uns, tandis que pour les autres, ce sera un bol de ramen fumant ou une saucisse purée. Ottolenghi ne l'a donc pas écrit seul, ce livre qui part en quête de ce qui peut nous réconforter dans le monde entier. Il l'a composé avec sa bande de proches, que des femmes, ses plus proches collaboratrices, Hélène Go, Verena Lockmuller et Tara Wigley. Leur territoire est très large. Celui d'Yotam s'étend donc de l'Italie à l'Allemagne, de Jérusalem à Amsterdam et bien sûr Londres. Pour ses co-autrices, c'est la Chine, la Malaisie, l'Australie, l'Allemagne, l'Écosse, New York et toujours évidemment un fort tropisme moyen-oriental. Ses recettes à 8 mains m'ont fait pousser des petits cris de joie. Tant il y a de la surprise, tant elles procurent à leur simple lecture un plaisir presque enfantin. Pancakes de polenta et salade de maïs aux épices, crêpes au curry et fromage, soupe aux boulettes de matzo, beignets de riz au fromage, sando, le sandwich japonais,
et oui.
Au poulet mayonnaise à la harissa, boulettes de viande au nyokmam. Les recettes sont moins longues que d'habitude, requièrent moins de produits. Les légumes y occupent évidemment une très large part. On y trouve même un aligot. Bon, il fait son aligot avec du comté et du cheddar, c'est pas grave, on n'en veut pas.
Il va être content du côté de l'Aveyron.
Alors on pourrait se dire que cette mosaïque qui part un peu dans tous les sens pourrait être un petit peu superficielle ou légèrement opportuniste, dans ce côté un petit peu inventaire et catalogue.
On pourrait dire cosmopolite, tout simplement.
Cosmopolite, exactement.
Ou fusion,
ouais.
Ou confusion.
Et voici ce qu'écrit Ottolenghi. Quand on savoure avec conscience, reconnaissance, délectation et respect, c'est un geste d'appréciation d'une culture et non d'appropriation. Mm-hmm. Et c'est cela que représente la comfort food pour nous. Elle est née de nos voyages et de toutes les histoires qu'ils contiennent. Ce livre est la célébration du mouvement, de l'immigration, de la famille, de la maison, des personnes. Bon, je vous vois venir, l'anchois dans tout ça.
Oui.
Il y a quelques recettes magnifiques. Il y a un rigatoni al ragù bianco que son papa lui faisait. Il y a une soupe géniale au pain, fromage et choux qui fait un peu soupe italienne, soupe de choux, de cavolo nero sur laquelle on fait fondre de la fontina. Ça pourrait venir de là-haut, de la Valtellina ou de ce genre d'endroit.
De Toscane.
Ou de Toscane.
Toscane,
même.
Mais la Valtellina avec le fromage aussi, un mélange
de Lombardie un peu. Mmh. Et puis, une petite pépite.
Oh là là.
Cette huile parfumée. Bon.
Ne mettez pas la cuillère dedans. Alors,
attention.
Gros risque d'addiction.
Alors, Yotam la sert avec un. Charles, bouchez-vous les oreilles. Un saumon à la puttanesca. Donc, évidemment.
Le mythe Ottolenghi. Alors là, brisé en une seconde.
On va l'écrire. On va l'écrire.
Donc, le saumon en proscrit. Mais l'idée d'une puttanesca avec un poisson, pourquoi pas? Et cette petite sauce, moi, je garde. C'est ma nouvelle passion. Je vais en mettre partout, jusqu'à l'écœurement, sur une salade de concombre, un bol de riz. Et puis, évidemment, pour une pasta du frigo vide, de l'huile d'olive, des anchois écrasés, du concentré de tomate, des flocons de piment, des graines de coriandre écrasées, des gousses d'ail tranchées finement, 2 citrons confits. J'ai pas osé en mettre 2, mais j'aurais dû. Et une petite pointe de sirop d'érable. On fait chauffer très légèrement.
Ah, vous faites chauffer?
Oui.
C'est pas une sauce froide.
On fait chauffer légèrement.
C'est une sauce qui se consomme froide.
Elle se consomme froide, mais
qui a demandé une petite
aussi.
Cuisson.
Et puis, je sais pas, c'est.
C'est dingue. Bon.
C'est salé, c'est profond, c'est frais.
C'est appétissant, c'est juste délicieux. À au nez, ça me rappelle le concentré de tomates et les tomates séchées.
Un peu, il y a ça.
C'est ce goût umami, en fait, qui ressort de la peau des tomates.
Il est très prégnant quand même.
Il y a 8 gousses d'ail quand même.
Oui, mais non, ça met pas en bouche. Oui, pas en bouche.
Mais c'est rafraîchi par la coriandre et le citron confit. Voilà,
il y a une légère acidité. Et
voilà, sur le filet d'anchois frais, c'est une très bonne idée.
L'anchois est gras, ça remplacera parfaitement.
Anchois sur anchois.
Voilà, moi je suis tombée amoureuse de cette huile. Et si vous êtes fan de Yotam Ottolenghi comme moi, sachez qu'il sera présent le 8 novembre prochain sur la scène du Casino de Paris, en vrai pop star, sur scène, pour une démonstration spectacle. Alors attention, c'est en anglais non sous-titré. Et Comfort, c'est chez Hachette Cuisine, 39,95€.
Et quand on met le nez dans ce livre Comfort chez Hachette Cuisine, on a envie de cuisiner toutes les recettes. Bravo, Yotam Ottolenghi. Il y a plein d'auditeurs qui nous parlent du beurre d'anchois sur le steak de bœuf, qui nous parlent, tiens, de la bagna cauda aux origines piémontaises, cette espèce de fondue d'anchois.
C'est ça, un petit peu chaude, dans laquelle on rajoute un petit peu de lait pour arrondir et qu'on mange chaude avec les légumes.
Vous avez 20 secondes pour la recette vietnamienne de min, tam, tran, aubergine à la vapeur au gingembre et nyok mam. Allez, on mange tous.
Ces aubergines sont cuites à la vapeur, après refroidies. Elles sont assaisonnées avec une préparation à base de gingembre, ail, nyok mam, une pointe de piment et du jus de citron. Elles sont parsemées de vers de cébette légèrement frites. Et ça se mange comme ça, un petit peu mariné. C'est vraiment très simple et délicieux.
Quel régal, ces aubergines à la vapeur et au nyok mam. Bravo, la recette sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et évidemment, dans ce très chouette livre, je me suis régalé à sa lecture. Gare au Garum de Patrick Cadour et sept contributrices dont vous, Alessandra Pierini, merci beaucoup. Merci Charles Gaillec.
À bientôt.
La semaine prochaine, on va déguster Dresse le Couvert en direct et en public à Uzès, dans la grande salle de l'Ombrière, dans le cadre du festival Saveurs et Savoirs qui se tient à Uzès du 10 au 13 octobre. Un festival dont on pilote la programmation avec On va déguster. Et l'émission portera sur les saveurs de l'usage. Et chère Alessandra, vous serez au festival Saveurs et Savoirs.
Absolument.
Racontez-nous.
On participera avec Stéphane Solier en dîner organisé dans le restaurant italien Era Ora, dans lequel il y aura un menu extrait des recettes du manuel de cuisine de Pellegrino Artusi qu'on animera pendant la soirée.
Et j'animerai également pas moins de 10 masterclass interactives avec Glenn Viel, Stéphanie Lequelec, la formidable cuisinière Olympe Versinis. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.